pour vous. Mais pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah voilà, je comprends pourquoi ça marche pas. Je me suis trompé de bouton. C'est génial. Allez, un générique. Et ça ne marche toujours pas. Bon bah je crois qu'on va laisser tomber le générique. Hein. Allez, ouais.
C'è chi non sa la verità, ma oh ma oh. C'è chi riesce a sopportar, ma oh ma oh. Sono tutti in guerra e non si sa che cosa mai succederà.
On nous dit, le bonheur c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là on va la gagner.
Ouais, pour arrêter de se faire exploiter la faute.
Ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais?
La révolution!
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info?
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
Dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, mes parents sont rentrés.
Bonsoir, on est lundi et vous êtes sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Il est 19h05, moins quelques secondes. Et tout de suite, c'est le Canu Info. Alors aujourd'hui, au menu... Alors déjà, non, bonne nouvelle. Tout à l'heure, on a fait un flash info parce qu'il y avait un camarade du collectif des étudiants étrangers sans papiers solidaires de Lyon qui s'était fait interpeller par la PAF. Eh bien, il vient tout juste de sortir des locaux de la PAF. Donc, on est tous très contents dans le studio.
Non. C'est vrai. Si, on est tous...
Ouais, c'est bon, il est dehors.
Santé.
Voilà, donc on pense à Amine. Du coup, aujourd'hui, en actu international, on discutera des affres judiciaires de notre cher Netanyahou avant de parler d'un massacre d'une minorité musulmane en Birmanie. Enfin, on parlera des manifs contre le franc CFA en Afrique ce week-end et du sommet France-Afrique qui arrive dans quelques jours aussi, à point nommé, dirais-je. Pour l'actu nationale, on reviendra un peu sur le retour de Bachar en odeur de sainteté dans la presse française, avant de s'intéresser à un mouvement syndical à côté de Grenoble, dans une boîte qui s'appelle Ecopla. on reviendra sur l'affaire Kardashian qui a connu de nouveaux rebondissements ce matin. Enfin, on parlera des interpellations de militants solidaires des migrants, des ONG qui dénoncent les pratiques policières envers ces mêmes migrants. Pour l'actu locale, toujours, on fait un peu une thématique migrant aujourd'hui. On vous parlera de l'acharnement de la PREF contre un demandeur d'asile, puis du plan Grand Froid et du refus de la mairie à mettre à disposition des gymnases. Et enfin de notre bien-aimé Gérard Collomb qui a des petits problèmes d'argent, notamment à cause du Sénat, parce qu'ils ne sont pas gentils avec lui. Voilà, et on terminera par l'agenda, le traditionnel agenda.
Alors la première question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce que la corruption d'État serait-elle une nouvelle tradition israélienne ? Donc après le bagel et pas mal d'autres produits locaux, on a il est en train de se mettre une véritable dynastie de personnes corrompues en tant que Premier ministre. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a que dimanche, la télévision israélienne Channel 2, bon, on s'en fout, mais révèle en effet que Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, aurait rencontré une date qui demeure inconnue, un mec qui s'appelle Arnon Moz, qui est le patron du journal Yedosh Ahronoth. Enfin, ce qui est intéressant, c'est de savoir, c'est le journal le plus lu en Israël. Et selon ces enregistrements, le Premier ministre aurait demandé donc à cette personne un meilleur traitement dans les colonnes de son journal, qui est plutôt un journal d'opposition, en échange d'une limitation d'un titre concurrent gratuit qui appartient à un de ses meilleurs potes. Il lui a promis ça sans évidemment discuter avec son ami qui est américain. Et donc clairement, c'est une des nouvelles affaires de corruption qui va le toucher. Donc il faut savoir que en fait pour ce personnage, c'est une tradition ce genre de pratique. Déjà en 2009, il avait essayé de faire limiter l'apparition de du gratuit en empêchant qu'il paraisse le dimanche, enfin tout le week-end, pour laisser la place justement au journal payant d'opposition et en le comprenant. Donc cette affaire est à remettre dans le contexte politique local. De ce fait, ce Premier ministre est déjà au cœur de nombreuses autres affaires. Donc on apprenait fin 2016 que Benjamin Netanyahou aurait reçu des cadeaux et des faveurs de deux hommes d'affaires, dont l'un serait israélien. Pas d'argent liquide ni des transferts bancaires, mais pas non plus des présents symboliques ou de moindre valeur comme l'expliquait la presse locale. Au contraire, la police suspecte que le montant total de ces dons s'élève à des centaines de milliers de shekels, la monnaie locale. Il pourrait donc être inculqué d'abus de confiance. Mais ça, c'est pas fini. En remontant en novembre 2016, le procureur général avait ordonné une enquête de police sur son rôle dans l'achat par le ministère de la Défense de trois sous-marins allemands. La chaîne Channel 10 avait révélé un peu plus tôt que David Shimron, l'avocat personnel du Premier ministre, faisait partie du conseil d'administration d'une filiale du constructeur de ces sous-marins. Et on remonte encore un peu de temps, au mois de juillet, M. Netanyahou est fini par reconnaître avoir reçu de l'argent du magnat français Arnaud Mirand, condamné lui-même pour escroquerie. Donc on est déjà à 4 affaires en moins de 6 mois, donc la question c'est qui peut dire mieux à l'intérieur de l'histoire israélienne ? Bien tout simplement son prédécesseur, le premier ministre précédent qui s'appelle monsieur Ehud Olmert, qui a dû démissionner en 2006 suite à des affaires similaires et qui depuis est parti en prison. Donc comme le rappellent certains journaux locaux, en fait l'affaire Netanyahou, elle reste extrêmement modeste par rapport aux traditions locales. Ainsi, il faut citer l'affaire du Holy Land, qui est donc en 2010, un scandale immobilier dans lequel M. Ehud Olmert avait touché des pots de vin lorsqu'il était maire de Jérusalem entre 1993 et 2003. Inculpé pour corruption, ils sont condamnés à 6 ans de prison, alors avant que sa peine ne soit réduite à 18 mois sur décision de la Cour suprême en 2015. Parce que la corruption à tête de ce qu'on appelle, enfin de ce qu'eux-mêmes appellent la seule démocratie du Moyen-Orient est devenue une véritable tradition. En plus du massacre régulier en fait de leurs voisins et palestiniens qui sont juste à côté, le soutien à un meurtrier, un soldat franco-israélien qui aurait abattu froidement un terroriste palestinien qui a été entièrement maîtrisé et qui l'a donc abattu d'une balle dans la tête, le ministre Netanyahou rentre dans la grande tradition des premiers ministres corrompus en Israël, et on peut espérer que sa démission arrive très bientôt, et donc voilà, un Noël normal dans la seule démocratie du Moyen-Orient.
On continue en Birmanie. Alors, que se passe-t-il en Birmanie ?
Cette
grande et belle démocratie reconnue à l'échelle internationale par l'ONU, la France, les puissances occidentales. Eh bien, depuis une semaine, il y a une population, un peuple du sud-ouest de la Birmanie, une minorité musulmane, qui subit de nombreuses exactions de l'armée birmane. Aujourd'hui, l'info qu'on a, c'est 22 000 Rohingyas, donc c'est le nom de cette minorité musulmane, sont entrés au Bangladesh, le pays voisin, et au moins 65 000 d'entre eux sont parqués dans des camps de fortune depuis des années. Pourquoi ? Puisque donc cette minorité musulmane subit une terrible répression, meurtre, torture, viol, exactions en tout genre, depuis plusieurs semaines, et c'est justifié par l'armée birmane par des attaques subies au poste frontière, des attaques et des raids qui auraient été faits par des rebelles Rohingyas. Alors, on pourrait parler un petit peu de cette minorité et de son histoire, parce que ça a du sens d'en parler. Depuis l'indépendance de la Birmanie en 1948, les Rohingyas font face à une discrimination constante. Ils ont été poussés du Bengale à l'époque, l'actuel Bangladesh, vers la Birmanie à la fin du 19e siècle, par l'Empire britannique, ce bel et grand empire, ce premier empire mondial. Donc installé et placé de force à cet endroit-là. Depuis lors, leur marginalisation a été constante. Elle a été renforcée en 1948 à l'indépendance de la Birmanie, puis en 1982 sous la dernière junte militaire, puisque des juntes militaires, la Birmanie, elle en connaît depuis 1962. Ils sont en Birmanie apatrides, sans nationalité aujourd'hui. Hein. Ils n'ont pas accès au marché du travail, ils n'ont pas accès aux écoles, ils n'ont pas accès aux hôpitaux, donc tout ce qui permet finalement de vivre un tant soit peu normalement. Cette minorité musulmane, donc dans un pays à majorité bouddhiste, s'est révoltée en 2012 et de très graves affrontements ont eu lieu. L'exode a repris vers le Bangladesh. Mais en 2012, c'est également l'année où une certaine Aung San Suu Kyi accède au poste de députée, puisque depuis 2011, c'est officiel, la junte militaire laisse sa place à une démocratie. Démocratie reconnue à travers le monde. Aung San Suu Kyi, fille du général Aung San, héros de l'indépendance de la Birmanie en 1948, qui a reçu un prix Nobel de la paix, dites-vous bien, par nos amis de l'ONU, vous savez, cette organisation au service de l'impérialisme des grandes puissances. Elle a reçu ce prix Nobel en 1991 pour sa résistance non violente face à la junte militaire. Et elle dirige ce pays depuis novembre 2015. Encensée par les dirigeants et les médias occidentaux, cette brave dame, donc, qui a reçu un prix Nobel de la paix par l'ONU, pourtant ne fait rien pour arrêter l'actuel massacre en cours contre la minorité musulmane du pays. D'ailleurs, cette dernière n'a pas non plus remis en cause fondamentalement depuis son arrivée au pouvoir la ségrégation absolument totale que subit cette minorité. Alors nous, ce qu'on dit, c'est stop au massacre contre cette minorité musulmane, stop aux exactions, et puis on remercie encore l'ONU et Aung San Suu Kyi pour avoir créé cette situation.
Mais surtout, que font les casques bleus ?
C'est vrai.
Vous avez dû répondre ce soir-là, je sens chaud, chaud, chaud.
Eh bien, dans la catégorie impérialisme, toujours, samedi, il y a eu plusieurs manifestations contre le franc CFA dans plusieurs capitales africaines et européennes. Donc, il y en a eu à Abidjan, à Bamako, à Dakar, à Kinshasa, à Ouagadougou. Il y en a aussi eu à Bruxelles, à Londres ou encore à Paris. Donc, cette série de rassemblements, de manifestations, de conférences, elles se sont tenues dans le cadre d'un appel mondial pour demander purement et simplement la fin du franc CFA. Donc, les organisateurs de ces événements, qui s'appellent eux-mêmes les panafricains, nous expliquent la nécessité de faire front contre le franc des colonies françaises d'Afrique, CFA, et de dénoncer les effets pervers de cette monnaie post-coloniale. Donc, ils réclament, entre autres, la fin de la servitude monétaire. Pourquoi ? Pourquoi cette monnaie asservit une partie de l'Afrique ? Bien déjà parce qu'elle concerne 15 pays où vivent 155 millions d'habitants et que cette monnaie, elle dispose d'une parité fixe avec le franc au départ et aujourd'hui l'euro, soi-disant pour gager sa stabilité. Donc il faut savoir d'ailleurs que le gouvernement de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, l'Ivoirien Tiemoko Meilié, nous affirmait le 23 novembre dernier qu'en fait, il n'y avait aucun problème, que le franc CFA, c'était super et qu'il pouvait continuer à servir les économies des 10 pays africains. Donc, comme on le sait, ces économies, ce n'est porte merveilleusement. Et les gens là-bas...
Surtout pour les dirigeants.
Voilà. qui font de grosses économies. Donc en Afrique, devant le tollé et devant surtout la mobilisation des intellectuels, des économistes sur place qui n'ont aucun mal à démontrer que ce franc CFA est une chaîne, hein, enfin, est un poison qui nuit à l'économie des pays et au peuple des pays, eh bien les seules démarches institutionnelles qui ont été démarrées par les États pour essayer de contrer cette dépendance, qui ont été prises par la BCAO, ça a été... de faire un appel d'offres pour les machines d'impression de la monnaie. Donc ça peut sembler bizarre, pourquoi faire un appel d'offres pour acheter les machines ? Parce qu'en fait, il faut acheter les machines de la monnaie, pas parce que ces machines, c'est nous qui les avons.
Non.
Effectivement, la monnaie CFA, d'accord, le franc CFA, il est imprimé en France, à Chamalières, à côté de Clermont-Ferrand.
Bordeaux.
De Bordeaux.
Bordeaux. C'est pas loin.
Pardon, je me suis gouré. Et ouais, voilà. Hein.
C'est parce que toi, tu les imprimes à côté de Clermont-Ferrand, t'es français.
C'est ça. Et donc voilà, donc la planche à billets de 15 pays africains, elle est en France. Donc on sait que c'est un bon révélateur de ce qu'on appelle la France-Afrique et de l'appareil français, qui, contrairement à ce que nos dirigeants peuvent affirmer, est très loin de baisser les armes. Et au contraire, hein, devant la prise de conscience et la mobilisation des peuples, essaye au contraire de resserrer son emprise. Donc ce franc CFA, pour faire un peu d'histoire, il a été créé en 1945, en parallèle des accords de Bretton Woods, où les nouveaux impérialismes se sont organisés entre eux pour mettre au pas la planète. Et ça
et
voulait
vraiment...
Et au dollar aussi, la fin des...
La fin de l'or.
La fin de l'or, la convertibilité, tout ça. Et ça voulait vraiment dire un CFA franc des colonies françaises d'Afrique. Donc ils ont changé à la fin des colonies, à la fin des années 50, en faisant un peu de nouvelle langue pour appeler ça franc de la communauté financière africaine.
Et ils sont malins, putain.
Ah, non, mais
ils changent tout, quoi.
Et poètes, hein, parce qu'il faut le faire. Donc
ils sont bons en rhétorique. Hein.
Donc les principaux arguments quand même des intellectuels, des économistes qui s'y connaissent en Afrique et qui disent que ce CFA, il faut l'abandonner, que c'est un archaïsme, que c'est surtout du colonialisme, c'est déjà la parité. Parce que ça veut dire quoi la parité pour le CFA ? Ça veut dire que quand on imprime des CFA, en fait on imprime des francs français ou des euros. D'accord ? Donc déjà nous, quand on imprime leur monnaie, c'est notre monnaie à nous qu'on imprime et on la possède. Donc il y a quand même pas mal de pays africains qu'on réussi à sauter le pas. Il y a le Mali en 62 et Madagascar en 73 qu'on réussi à quitter le CFA. Mais d'autres qui malheureusement, pour des intérêts géostratégiques divers, ont intégré la monnaie, comme les deux Guinées, Équatoriale et Bissau en 85 et 97. Et voilà. Donc en 93, il y a eu un assouplissement, entre guillemets, de la France-Afrique avec la signature du traité de Maastricht, qui a obligé la France à composer avec l'Allemagne, notamment quant à sa monnaie. Et donc ça a donné un peu d'air et de transparence aux manipulations monétaires de la France qui devait accorder en fait son colonialisme avec les autres pays européens et partager la galette, hein, parce que c'est ça la réalité. Mais encore aujourd'hui, aucune décision des banques centrales africaines ne peut être prise sans l'accord de la Banque de France. Aucune décision. Les prêts qui sont faits, du coup... plus ou moins détériorant par la Banque de France, se font des taux d'environ 7%, ce qui est énorme. Et les pays de la zone du CFA, ils doivent déposer 50% de leurs réserves financières auprès du Trésor public français. Donc la conclusion, eh ben, c'est que dans la France-Afrique, la France a toujours le fric.
Et elle continue pas mal, puisque ce vendredi 13 s'ouvre à Bamako le 27e sommet France-Afrique. Alors en fait, dans le genre glissement sémantique un peu pérave, ça s'appelle Afrique-France maintenant. C'est au cas où on n'ait pas compris que c'est la même chose. Donc il réunira une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement africains autour de notre bien-aimé chef suprême de la France-Afrique, j'ai nommé François Hollande. Alors, pompeusement nommé sommet pour le partenariat, la paix et l'émergence, bon, il s'agira surtout de discuter de sécurité et de gros sous, parce que quand même, il y a une bonne grosse délégation du MEDEF qui prendra ses quartiers dans la capitale malienne. Il faut dire qu'avec une croissance prévisionnelle de 4,4%, un taux de chômage particulièrement élevé et une classe moyenne qui est bien prometteuse, c'est pas Total ou Orange qui vont remettre en cause les velléités du gouvernement à maintenir son empire africain. Donc, même si en novembre, le MEDEF, en préparant le sommet, déplorait un peu le choix de Bamako, je cite, dans les couloirs du MEDEF, « Notre délégation d'hommes d'affaires et de dirigeants aurait préféré se rendre au Sénégal ou mieux en Côte d'Ivoire, où il y a de très bonnes affaires en ce moment, c'est-à-dire une croissance à 9%. Le choix de Bamako résulte d'une décision politique et non économique. » Bon, ils ont quand même pu organiser... Oui, dis-moi.
Les pauvres.
Non, ils ont quand même pu organiser tout un tas de rencontres avec des grandes entreprises africaines en amont pour préparer le sommet. Et Gata s'est quand même montré rassurant avec ses ouailles. Nous allons aussi en faire un sommet économique. Merci,
tant
Pierrot.
Mieux.
Non, oui, on s'inquiétait tous. Non, en effet, c'était une décision politique que de le faire à Bamako, parce qu'on fête les 4 ans de l'opération Serval. Donc François Hollande confirme le retour en France de la France-Afrique. Il y a quand même depuis 2011, ils sont repartis bien en avant Guingamp. Et donc, il entend.
Pas mal.
Ouais, bon, ça arrive. Et il entend donc faire du Mali un peu la vitrine de sa politique d'ingérence, et ce donc pour la modique somme de 16 milliards de francs CFA, notamment avec l'extension de l'aéroport de Bamako, aussi tout un tas de trucs sécuritaires, en veux-tu en voilà. Donc 76 milliards, c'est pas mal. Donc non content de faire la guerre en Afrique, d'y piller à peu près toutes les ressources et d'exploiter tout le monde, cette grande messe va s'accompagner d'un beau nettoyage de la ville, parce que c'est pas joli les détritus. Donc avec notamment des concours de propreté organisés entre les écoles pour mettre à contribution tout le monde. Dans la gêne, il n'y a pas de plaisir. Hein. Autant mettre à contribution gratos ce qu'on exploite et qu'on pille depuis des dizaines d'années.
Des centaines d'années.
Pour avoir une ville bien propre, pour inviter les copains du CAC 40 qui n'aiment pas trop la saleté.
Quand c'est sale. C'est
voilà.
Donc, on va passer à la rubrique nationale. Et pour faire la transition en douceur, on va encore parler d'impérialisme, puisque c'est quand même la tendance... Et la qualité de l'époque qui fait que nos bourgeoisies ont lié nos destins avec les peuples qu'elles ont colonisés d'abord et qu'aujourd'hui elles opprinent et qu'elles tentent de maintenir dans les fers. Donc un bon exemple, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Syrie où, comme chacun le sait, la situation est plus que compliquée et surtout saignante. Et la France avait pris un parti qui aujourd'hui ne tient plus, et donc elle est obligée à travers ses organes de presse et à travers son monde politique de changer son fusil d'épaule et de présenter Bachar el-Assad sous un jour peut-être pas plus sympathique, mais en tout cas plus nécessaire. Donc ce dimanche, le président boucher syrien Bachar el-Assad, qui est le fils du président Hafez el-Assad, a rencontré...
Boucher de son état également.
Également. A rencontré 3 députés français, donc élus par le peuple de France, et a donné une interview également à 3 médias français, France Info, RTL et LCP. Donc s'en est suivi sur toutes les ondes des discours de Bachar et les analyses inspirées des divers experts politiques que l'on connaît. Donc consécutivement, en retournement contraint de notre diplomatie, et surtout parce que le tyran Bachar, il semble assuré de garder son poste encore quelques temps, malheureusement, la presse française, elle se met au diapason et donne une leçon de ce qu'ils appellent tous de la réelle politique. Donc il commence par nous rappeler le temps où la France, elle entretenait des rapports cordiaux avec la Syrie de Bachar, comme par exemple en 2008, le tyran avait assisté aux côtés de Sarkozy au défilé des troupes françaises le 14 juillet. Donc ça rappelle évidemment les histoires avec Kadhafi au château de Chambord, qu'on fait chasser dans les forêts de nos rois pour les dessouder ensuite, parce qu'ils ont décidé de
se rebiffer un petit peu.
Donc la palme de ce relativisme, elle revient à Karl Zéro. d'accord, qui, comme son nom l'indique, se situe à un très haut niveau journalistique. Donc, on passe sur la parole qui est donnée au dictateur, qui explique bon, bah, que tous ses opposants sont des terroristes et que la mort de milliers de civils est finalement un faible prix à payer pour qu'il conserve le pouvoir, un pouvoir hautement légitime, puisque c'est son papa qui lui a donné. Donc on passe sur, sur tous ces gens qui ont honni le dictateur, qui ont versé des larmes de crocodile sur les Syriens, et qui maintenant sont sur le point de le présenter comme un moindre mal, un incontournable, voire même certains évoquent une laïcité supposée qui en ferait finalement, comme le discours poutinien, un rempart, hein, comme feu Saddam Hussein, contre les divers fondamentalismes. Mais surtout pas comme la cause hein, de cette misère et de ce ressentiment, de cette vengeance qui précipite les gens les uns contre les autres. Donc on passe là-dessus. On passe pas l'éponge par contre. Hein, et on va s'arrêter, les 30 secondes qui me restent sur Karl 0,1. Donc ce Karl 0, sur France Info, il s'imagine dans la peau d'Assad. Hein, c'est comme ça que sa chronique est commande. On s'imagine dans la peau d'Assad. Donc déjà c'est un bon début, on voit bien les idées qui sont passées par la tête. Et puis, il nous refait l'histoire des relations sur-européennes.
Il faut qu'il change de psy, par contre, à moi.
Voilà, il faut. Mais il nous refait l'histoire hein, entre la Syrie, l'Europe, et il nous explique, quelque part, que c'est nous, les Européens, qui avons déclenché cette guerre en essayant d'assassiner Bachar el-Assad et de le remplacer pour contrôler les oléoducs dans la région. Donc, ce n'est pas totalement faux. Hein. Il est vrai que l'impérialisme français, anglais, est cynique et qui n'hésite pas à dessouder tel ou tel dictateur en fonction de ses intérêts. Par contre, ce qui est moins agréable, c'est de voir des journalistes qui, à un moment, s'émeuvent d'une situation injuste et catastrophique, et qui, plutôt de rester sur cette ligne et de condamner fermement Bachar el-Assad, publient des articles dans lesquels on le voit en costard, digne, réinstaller petit à petit son pouvoir sur toute la Syrie. Donc, merci beaucoup France Info, RTL et LCP. De participer au retournement de veste généralisé sur cette question-là et qui va consister finalement à noyer le poisson et à nous faire croire que tout a fini pour le mieux.
Puis dans le monde réel, Assad, enfin le conflit syrien a quand même démarré par une tentative du peuple de se libérer de ce qu'on a fini. Des étudiants qui se révoltent, printemps arabe, on rappelle cette période-là. Bon, la France a peut-être joué un rôle derrière, mais à la base c'est quand même un peuple qui a essayé de se libérer de ses chaînes. Quoi. Donc,
on va continuer au national avec un sujet syndicalisme. Donc Ecoplat, parce que ça c'est une entreprise près de Grenoble à Saint-Vincent-de-Mercus dans l'Isère qui fait des plats en aluminium. Rien de très original, sauf que cette entreprise a subi des différents désagréments, notamment elle a été pillée par un fonds d'investissement, par une banque d'affaires, puis par un actionnaire sino-australien, et elle a été liquidée en février dernier. Là-dessus, il y a eu plusieurs projets. Bon, d'abord, les salariés, bien sûr, en grand danger, sont allés protester à Bercy, ont fait le tour de meetings politiques, notamment des discours d'Emmanuel Macron pour demander à ce qu'on fasse quelque chose pour eux. Et tout ça a débouché sur un choix entre deux repreneurs possibles pour la boîte. D'un côté, le groupe italien Cookie, qui a affirmé avec franchise qu'il ne conserverait aucun emploi et aucune activité sur le site et qui paierait juste 1,5 million d'euros pour acheter les machines, effacer une partie de la dette sociale et éliminer son seul concurrent en France. Donc, le seul concurrent en France de cette boîte Ecoplat. L'autre côté, en fait, l'alternative à Cookie...
Qui fabrique des boîtes en aluminium par Ecoplat ?
Cookie, voilà. Qui n'est pas un fabricant de gâteaux, mais étonnamment.
De l'autre côté, on a une alternative, et l'alternative, c'est les salariés de la boîte qui proposent en fait de reprendre la boîte et de faire une SCOP, une coopérative. Et pour ça, ils ont le soutien de leurs clients sous forme de promesses de commandes. Et ils ont le soutien aussi des banques prêtes à financer le projet à hauteur de 2,3 millions d'euros. Donc on a d'un côté un projet qui liquide tous les emplois, 1,5 million d'euros. Et de l'autre côté, un projet made in France, pas d'une boîte étrangère, de 2,3 millions d'euros et la préservation de tous les emplois. Et donc, bien entendu, la cour d'appel du tribunal de commerce de Grenoble a opté pour la première solution, c'est-à-dire Cookies. Et ce qui a donné lieu donc à une vague de protestations et notamment à un processus de résistance. Donc sous la houlette des syndicalistes de Ecopla, mais aussi de Charles Piaget, donc ancien syndicaliste d'Elip, l'entreprise qui dans les années 70 avait repris l'entreprise et produisait, vendait et se salariait eux-mêmes, et ça marchait très bien, et ils ont reçu le soutien de toute la gauche de France et de Navarre. L'économiste Frédéric Lordon et aussi le réalisateur de Merci Patron, François Ruffin, ont organisé une opération Alu Debout, à savoir un espèce de super meeting à la Bourse du Travail de Grenoble, pour un peu se motiver. Et du coup, à l'issue de cette journée Alu Debout, le 14 décembre, les salariés d'Ecopla disent qu'il n'y a pas moyen qu'on fasse ça, et donc ils déclarent une manifestation le 14 janvier et aussi de protéger l'entreprise des camions de cookies qui viennent chercher les machines. Donc là, je crois que c'était le 21 décembre, il y a des camions de cookies qui arrivent pour récupérer les machines, et là, en fait, les salariés empêchent les camions de récupérer les machines et occupent la boîte. Sauf que ça va pas se passer comme ça, puisque d'un côté Cookies a accepté des négociations, donc les salariés très 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 en danger et très 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 qui ont très très peur de perdre leur emploi, donc du coup ça a pesé un peu dans la balance. Et de l'autre côté, en fait, une mobilisation policière, un dispositif policier énorme avec des huissiers sur le site ont été déployés pour faire en sorte que l'occupation cesse et que les salariés aient peur d'interpellation, de risques judiciaires. Et hélas, en fait, ils ont décidé, sous ces différentes pressions, d'annuler leur manifestation du 14 janvier et d'attendre les négociations. Donc on espère que, suite aux négociations, ils se rendront bien compte qu'on essaye de les entuber et qu'ils reprendront la lutte, et qu'ils arriveront à socialiser et à faire de Ecopla une coopérative. Voilà.
Et oui, on espère pour eux. Alors, un peu moins triste, ça dépend pour qui. On s'était pas mal apesanti sur l'affaire Kardashian, je ne sais plus quand c'était d'ailleurs, mais rappelez-vous, c'était un tollé suite au vol de bijoux dans un hôtel parisien à Kim Kardashian. Et donc un nouveau rebondissement ce matin, 17 personnes ont été interpellées, donc la plupart a priori déjà connues des services de police. L'un d'eux est quand même âgé de 72 ans, donc bravo papy.
C'est bon ça.
Alors au moment de l'affaire, NKM s'était ému de l'insécurité qui régnait à Paris, donc on attend le communiqué d'Anne Hidalgo qui se félicite d'avoir rétabli la paix sociale dans les rues parisiennes. Mais surtout, comme on s'en fout toujours un peu de cette histoire et que c'est toujours un peu chiant, Kim Kardashian, ça va surtout nous permettre de reparler de notre autodéfense face au keuf, parce que déjà, les mecs se sont fait gauler parce que l'un d'entre eux avait laissé une trace d'ADN dans la chambre de Kim.
Portez des gants, messieurs.
Donc voilà, on le dit jamais assez.
Et des préservatifs.
Aussi. Quand votre c'était pas ça. Non. Donc quand vous donnez votre ADN à la police, c'est pareil, il faut des fois penser aux conséquences que ça peut avoir, même bien longtemps après, parce que ça fait quand même chier de se faire gauler juste pour ça. Et puis pareil, dans les perquis, ils ont apparemment retrouvé pas mal d'argent liquide chez tout le monde. C'est pas très bon et ça sent pas très bon pour la suite judiciairement.
On va pas garder l'argent.
On fait le ménage.
Cachez le bien.
Voilà. Donc en attendant, on en rit, mais courage à tous ceux qui continuent de pourrir dans les geôles de l'État français.
Mettez pas non plus l'argent à la banque.
Non, non plus.
Trouvez d'autres moyens.
Alors, on continue avec aujourd'hui encore des interpellations pour ce fameux délit de solidarité. Donc dans la vallée de Roya, après l'agriculteur membre du collectif Roya Citoyen, envers qui le parquet a requis 8 mois de prison avec sursis pour avoir transporté et hébergé en France des Érythréens et des Soudanais sans titre de séjour, qui aura d'ailleurs son rendu de jugement le 10 février. Après avoir poursuivi un enseignant-chercheur du CNRS pour avoir transporté 3 Érythréens venus d'Italie enseignant-chercheur finalement relaxé, à qui le proc pourtant voulait mettre 6 mois de prison avec sursis, eh bien c'est au tour de 4 nouveaux militants de la vallée de Roya et du collectif Roya Citoyen de subir les foudres de la police et de la justice. Ils ont été interpellés vendredi dans la vallée en compagnie de plusieurs migrants, dont des mineurs, et placés en garde à vue. Ils sont poursuivis pour aide à l'entrée au séjour et à la circulation d'étrangers en situation irrégulière et convoqués en mai devant ce même tribunal de Nice. Car effectivement, ils ont osé, dites-vous bien, loger des familles alors que dehors il faisait moins 3 degrés. Honte, scandale, horreur.
C'est Gérard Collomb qui ferait ça. Hein.
Ce fameux délit de solidarité, on va en parler un tout petit peu. En fait, c'est une expression. Dans les textes, il n'existe pas. Mais bon, il fait référence à un article du CESEDA, donc ce fameux code de l'entrée, du séjour des étrangers, du droit d'asile, qui date de 1945 et qui dispose que toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France encourt 5 ans de prison ferme et 30 000 euros d'amende. Ça, c'est le code pénal. En 1995, le GISTI, le groupe d'info et de soutien aux immigrés, fait apparaître l'expression délit de solidarité et initie un manifeste des délinquants de la solidarité. En 2003, une exception à ce délit est ajoutée au texte à la fameuse loi CESEDA de Sarkozy. Le danger imminent ou actuel de l'étranger peut justifier une aide. Et après l'élection de Sarkozy en 2007, pourtant, malgré ce nouveau bienfait pour les militants, les associations sans-papiers ont dénoncé l'utilisation de plus en plus fréquente de cet article contre les militants venant en aide aux migrants. Et en 2012, la gauche au pouvoir mime un élargissement de l'immunité face à ce délit en établissant une distinction entre passeurs et personnes solidaires. Mais ce texte est en fait une coquille vide puisqu'il n'évoque que l'aide au séjour, mais pas l'aide à l'entrée ou à la circulation. Et finalement, il précise et peaufine les conditions dans lesquelles une personne solidaire peut être condamnée, ce qui a d'ailleurs permis une hausse des interpellations et des condamnations. Donc nous, on demande la relaxe pour l'agriculteur, pour les 4 militants et pour tous les inculpés solidaires avec les sans-papiers, quels qu'ils soient. Liberté de circulation et d'installation.
Et des papiers pour tous, pas de papiers du tout.
Et voilà.
Et la naturalisation de tous les sans-papiers en France.
C'est ça.
Alors dans la même veine, on a un communiqué de Médecins Sans Frontières que l'on peut titrer par « Que les policiers protègent les migrants au lieu de les violenter ». Donc un petit extrait du communiqué de Médecins Sans Frontières. « Les policiers harcèlent les migrants en leur confisquant leur couverture, bon il fait froid, hein, utilisant parfois des gaz lacrymogènes pour les disperser, allant jusqu'à leur interdire de s'asseoir dans la file d'attente du centre humanitaire de La Chapelle où ils attendent une place d'hébergement. Donc MSF, ainsi que le camarade précédemment, et ainsi que d'autres militants, comme la Roya, etc., ils dénoncent donc la politique de l'État, hein, qui va du président, en passant par l'odieux ministre de l'Intérieur, Le Roux, qui s'incarne dans les coups de matraque et les mauvais traitements, et donc une opposition contre tout un lot d'inhumanité infligée à des personnes qui ont dû quitter leur pays, souvent pour des causes en lien avec l'impérialisme de ce même État, la France, qui prétend les prendre en charge et les protéger. La France, donc, un pays qui bafoue ses fameux droits de l'homme partout dans son territoire, hein, à Paris, dans la vallée de la Roya, à Calais, dans les centres de concentration, mais aussi avec sa participation à Frontex, jusqu'en Grèce, aux Canaries, à Malte, à Lampedusa, à Thessaloniki, jusqu'en Turquie, finalement, où les milliards donnés à Erdogan n'ont d'autre but que d'organiser le contrôle, le fichage, l'assignation et l'humiliation de millions d'innocents dont le courage ne se dément pas, hein, et qui, bah ça c'est la hantise de notre État, commence à engranger de larges soutiens dans la société civile. Alors, si le sujet n'était pas si grave, on pourrait trouver la réponse de notre odieux ministre de l'Intérieur, Le Roux, franchement marrante, tellement qu'elle est cynique et culottée. Hein. En effet, devant les critiques de Médecins Sans Frontières, ce qui est quand même une ONG assez sérieuse, hein, je suis sûr que vous avez la carte du monde dans les chiottes, eh bien, il faut savoir que notre premier flic de France, il trouve à répondre que MSF dit n'importe quoi et que surtout, hein, faut s'accrocher là, il nous dit qu'il faut arrêter ce sport national de mise en cause des policiers. Parce que selon lui, les policiers, ils n'ont fait que mettre à l'abri des personnes vulnérables. Je dis à l'abri, pas à l'ombre. Hein. Donc, quel foutage de gueule, hein. Alors, pour une fois, bah, on va écouter le roux, lui faire zizir, et on va minorer le rôle des flics dans cette histoire. Car c'est vrai qu'après tout, hein, les flics, c'est que des pauvres gens qui obéissent à des ordres criminels pour toucher de l'argent à la fin du mois. Donc, rien à voir avec le zèle des juges, de quasi toute l'administration judiciaire, en fait, et notamment des procureurs, hein, comme à Nice, qui, par exemple, font appel de la relaxe d'un enseignant de la fac pour, justement, solidarité.
Ou de la préfecture du Rhône, dont on parlera après.
Ou de la préfecture du Rhône. Parce qu'il s'agit, pour cette noble institution de la justice, pleine de vices, de dissuader le citoyen lambda de tout élan de solidarité. Donc, les administrations le carburent aussi, les prefs, les rectorats, les facs. Et oui, effectivement, merci Leroux, il n'y a pas que les flics. On peut penser aussi aux citoyens qui ont dénoncé les habitants de la Roya, pour pas un rond, cela, et surtout Leroux lui-même, qui mène une vraie guerre aux migrants. Donc, on va reprendre sa formule. Cette chasse aux migrants, eh bien, en fait, c'est elle qui est en train de devenir le sport national.
Et donc, on continue, et on termine ce point national par une chanson, c'est Lagal, c'est une rappeuse franco-libanaise, et ça s'appelle Passage d'une frontière, ça déchire, écoutez, et c'est dans le sujet.
Du phosphore blanc pour mes peines, de la honte sur mes gènes, ils nous ont exploités sans gêne. Toutes nos ressources taries à échelle surhumaine. Je suis la peur au confinement de leurs nerfs et me larve avec torpeur aux quatre coins de leur enfer. Je suis tout ce qu'ils haïssent, ils en ont décidé ainsi. Le jour qui m'a amené ici a amorcé mon sursis. Nous n'ont jamais été inscrits en lettres capitales, sans drapeau, sans couleur, sans passe gouvernementale. Pour des nations bâties à l'usure de nos sandales et qui se garderont bien de soulever tout scandale. Pour nous l'espoir lentement c'est tarif par escale entre charter, expulsion, l'univers carcéral. Et à jamais la bête noire de ces chacals. Et mon ambition première, je considère que c'est normal. Le passage d'une frontière, le néant d'une carrière. Des drones, des gravières, une dette en surenchère. Le passage d'une frontière, le néant d'une carrière. Par-dessus tout autre chose qu'hier. Des drones, des gravières, une dette en surenchère. Pour une guerre à ciel ouvert. J'ai claqué la porte, il y a de ça fort longtemps. Ne crois plus à la paix, mais un violent réajustement. Et je brûle, me consume en quatre temps. Une ceinture à la taille, prête à faire feu sur vos gens. Pour des générations acquises par nettoyage mental. À qui je souhaite un examen de conscience radicale. Si ce sol, je foule encore. C'est pour que mes pas y restent imprimés après ma mort. Tu es né poussière, tu retourneras poussière. Les vautours chaque jour dévoreront tes viscères. Tu verras que rien ne sert d'espérer en vain. Que la résignation pour toi est le plus court des chemins. C'est la brèche insolente et la branche qu'ils ont sciée. Se tient le rêve jamais brisé d'un à un. Les voir tomber des racines asséchées de nos précieux oliviers. Au pied des cubes de béton et des jardins aseptisés. On prend part à la réécriture du scénar quand les lumières s'éteignent. Quant à nous s'offre le soir, les murs se taisent, nos morts sur scène. Mais réel est le cauchemar. Il ne s'agit que de temps pour que tous comprennent l'histoire. Du passage des frontières, du néant des carrières. Des drones, des gravières, des dettes en surenchère. Le passage d'une frontière, le néant d'une carrière. Par-dessus tout d'être autre chose qu'hier. Des drones, des gravières, des dettes en surenchère. Pour une guerre à ciel ouvert. Madi, Bassam, Fadi, Sami, Antal, Soha, Malika, tous les frères, les sœurs, RGB, DJ Leto Skills.
Et rebonsoir, il est 19h44, vous êtes toujours sur le 102.2 Radio Canu, la plus rebelle des radios, et c'est le Canu Info. Du coup, on passe à l'actu locale, et on va parler de la préfecture du Rhône, qui, une nouvelle fois, montre tout son cynisme et sa capacité d'acharnement contre les demandeurs d'asile. Donc, c'est une histoire un peu longue, on va essayer d'être rapide. Mais donc c'est l'histoire de Fernando, hein, une histoire un peu sordide, mais qui ressemble à beaucoup d'autres histoires de migrants. Donc Fernando, il est de nationalité congolaise. Il était président local du parti d'opposition en République démocratique dite démocratique du Congo. Donc ce parti, c'est l'Union des démocrates sociaux et chrétiens, qui s'est opposé à la tentative du gouvernement Kabila de faire modifier la loi électorale pour que Kabila puisse enchaîner les mandats tranquilles. Donc l'UDSC, son parti, avait organisé en janvier 2015 tout un tas de manifs. Et Fernando avait été arrêté dès la première, puisqu'il avait des responsabilités assez importantes dans le sein du dans le parti. Et donc il a été arrêté dès la première manif en janvier 2015, puis torturé. Il a réussi à s'enfuir et à gagner la Turquie. Donc je reviens pas trop sur le parcours du combattant, qui est celui de nombreux migrants pour ce genre de voyage, mais il a traversé en bâton gonflable puis à pied une grande partie de l'Europe. Et c'est à son arrivée en Hongrie en mai 2015 qu'il est arrêté par la police. Je précise qu'en Europe, quand tu fais une demande d'asile, c'est le premier pays dans lequel tu arrives qui doit recevoir ta demande d'asile. Donc si tu te déplaces ensuite en Europe, dans un autre pays, tu vas être renvoyé dans ton premier pays d'arrivée, là où tes empreintes ont été enregistrées. C'est ce qu'on appelle la procédure Dublin. Donc Fernando a été contraint de déposer sa demande d'asile en Hongrie, puisque c'est là qu'il a été interpellé en premier par les forces de l'ordre. Le problème de la Hongrie sur le traitement des migrants, c'est que c'est un pays qui est connu particulièrement pour ses maltraitances. C'est connu par les institutions européennes elles-mêmes, hein, puisqu'il y a une procédure.
Il y a des pays qui sont connus pour leur bien-traitance ou pas?
Non, mais disons que là, c'est assez violent pour que l'Europe elle-même ait engagé des procédures contre le pays. Et en plus, il y a une non-effectivité du droit d'asile en fait en Hongrie, parce notamment pour les migrants qui sont passés par la Serbie avant d'entrer en Hongrie, ils sont automatiquement déboutés de leur demande. C'est le cas de Fernando. Donc il a à la fois passé par la Serbie, en plus il a subi de nombreuses maltraitances. Son témoignage est assez édifiant en ce sens-là. Donc tout un tas de fouilles à nu, y compris des fouilles anales, pas d'interprète lors des interrogatoires. Dans les camps de rétention, même pas de matelas, pas du tout de mobilier, donc il dormait à même le sol, pas de douche, pas de savon, un seul WC pour tout ce beau monde, j'en passe, et pas des meilleurs. Donc il a décidé de venir s'installer en France en janvier 2016, il s'est inscrit en licence de sciences de l'éducation à Lyon 2, il était enseignant en RDC, et il est aujourd'hui membre du collectif des étudiants étrangers sans papiers et solidaires de Lyon, qui fait la une de l'actu aujourd'hui. Et qui fait un bon boulot, ouais. En effet. Et il a donc commencé à reconstruire sa vie à Lyon. Il se fait tout un tas d'amis, hein, y compris dans cette pièce. Donc, jusqu'à ce que la préfecture, en juin 2016, lui transmette l'arrêté de transfert vers la Hongrie, ainsi qu'une assignation à résidence en attendant son expulsion. Donc c'est une décision que Fernando il a contestée au tribunal administratif, donc au motif des maltraitances subies en Hongrie, mais aussi parce que sa demande d'asile risque d'y être rejetée sans même avoir été étudiée. Il a donc gagné son recours, hein. Le TA a cassé la décision de la préfecture de remise aux autorités hongroises et d'assignation à résidence. Mais voilà, la préfecture n'était pas très contente. Donc bien sûr, ils ont préféré s'acharner. Ils ont fait appel de la décision du TA. Et face à la cour d'appel de Lyon, qu'on sait toujours particulièrement clémente, eh bien, la préfecture a gagné. Donc Fernando se retrouve de nouveau dans cette situation dans laquelle il était cet été. Donc voilà, on se demande quel est l'intérêt pour la préf de faire annuler cette décision, si ce n'est montrer une nouvelle fois sa détermination à expulser, à acculer à la misère et à détruire la vie de tout un tas de gens. Donc Fernando, il se bat face à ça, il a décidé de se pourvoir en cassation. Le problème, c'est que la procédure de pourvoi en cassation, elle n'est pas suspensive de son arrêté d'expulsion et de son assignation à résidence. Il est donc convoqué le 12 janvier à l'aéroport de Saint-Exupéry pour se faire expulser vers la Hongrie. Donc voilà, ce que ça nous montre, c'est comme tout un tas d'autres procédures qui concernent les migrants. En fait, les voies de recours, elles sont pas du tout effectives puisque tu te fais expulser avant même d'avoir pu faire ton pourvoi en cassation, par exemple, en l'occurrence. Donc c'est des décisions en plus extrêmement dangereuses pour la vie des demandeurs d'asile et des sans-papiers eux-mêmes, bien souvent. Du coup, c'est lourd de sens, quoi. Et l'accès au droit, en réalité, il leur est complètement nié. Donc c'est une situation qui n'est pas du tout isolée. Elle montre la politique xénophobe de l'État français. ces relais préfectoraux souvent encore plus ailés que la loi elle-même, alors même que c'est l'impérialisme français dont on a assez parlé en début d'émission qui crée ces situations et qui crée ces parcours migratoires là. Donc nous on souhaite beaucoup de courage à Fernando, on espère que ça va bien se terminer pour lui, on est tous là et je pense qu'on tiendra au courant des suites de l'affaire. Voilà.
Voilà, courage Fernando. Et à tous les autres migrants qui subissent le même sort.
Et pour continuer dans les petites joyeusetés de la préfecture et de la mairie locale, il y a eu ce week-end ce qu'on pourrait qualifier de buzz sur l'internet local, en tout cas sur les réseaux locaux, un article qui est paru sur le canard local Rébellion, signé par le PLUS, les professionnels de l'urgence sociale, en fait dénoncer le...
dénoncer le... Quelqu'un m'a balancé un...
Non, continue.
On s'en fout. Ce collectif a dénoncé en fait le refus de la mairie dans son communiqué et par de la préfecture d'ouvrir un deuxième gymnase en fait pour l'accueil des sans-abri, alors que le grand froid et température négative est arrivé dans le coin. Donc voilà, et ce qui est impressionnant à voir, c'est que cet article a été partagé plus de 4500 fois sur Facebook, alors que en général ce journal est quand même assez peu lu, et que beaucoup de gens réagissent, manipulent ce
truc. Pas si peu que ça.
C'est quand même un peu un record. Enfin, le monde en général fait moins, donc c'est dire pour un journal local, c'est quand même monstrueux.
Admettons.
Ah non, mais moi je m'en réjouis, bien au contraire. Ne déformons pas mes propres propos, parce que j'en suis très, très content, mais ce qui est curieux de voir, c'est toutes les réactions indignées sur Internet, les manipulations, avec vu que le mot colon était dans le titre, alors on a tous les anti-Macron qui l'associent, qui reprenaient le truc, on a toute une frange aussi d'abrutis profonds qui sont proches de l'extrême droite qui expliquaient que c'était pas cool de pas s'occuper des SDF alors que les immigrés étaient accueillis. Et donc, on va revenir maintenant sur...
On l'a bien vu d'ailleurs.
Hein. On a bien
c'était
vu.
Accueilli à bras ouverts.
Eh hein. Ben ouais.
De grandes roues gratuites.
C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, en ce moment, c'est un peu la mode. D'ailleurs. Donc, on va revenir sur les réalités avec notamment Rue 89 et d'autres canards et sur les infos qui nous sont revenues.
Oui, et puis ce qui est drôle aussi, c'est que l'info publiée sur Rébellion a été démentie par plusieurs élus, dont l'adjointe Zora Aït-Maten, bon, j'espère que je n'écorche pas son nom, et le maire du 7e, Romain Blachier, qui ont été donc de leur communiquer et autres posts Facebook pour assurer que chacun pouvait trouver une place où dormir à Lyon. Or, justement, il y a eu un article sur E89 Lyon, qui a été voir notamment le SAMU social et le responsable du SAMU social, et c'est pas ce qui est constaté. En effet, lors de ces maraudes, le SAMU social a vendredi dit qu'il avait environ une soixantaine de personnes dans la rue à Lyon, qu'il n'y avait pas de place pour ces gens. Et au niveau national, c'est 1500 personnes qui appellent le SAMU social, qui ont appelé le SAMU social dans la semaine et qui n'ont pas pu avoir de place. Donc on est loin du tout le monde a une place pour dormir. Et en plus, plusieurs drames ont eu lieu récemment, dont la semaine dernière, le décès d'un homme sans abri Place Bellecour, ce qui avait un peu remué les gens, mais visiblement pas les élus et la préfecture. Et donc le SAMU social réclame maintenant l'ouverture du deuxième gymnase qui était initialement prévu, et d'autres associations comme la coordination d'urgence, la coordination urgence migrants, a envoyé une pétition à Gérard Collomb pour faire quelque chose pour obtenir plus de places.
Donc pour conclure là-dessus sur cette affaire, ouais, c'est pour ce que j'évoquais tout à l'heure, les discours un peu extrêmement haineux qu'on a pu voir en fait dans l'ensemble des partages, enfin ça vous regarderez, c'est public, sur les gens qui expliquaient que les immigrés étaient accueillis à la place et compagnie, ben nous on vous répondra tout simplement, il y a une petite brève sur le même site qui est très très claire là-dessus, c'est qu'à Lyon, en fait on compte en 2013, les chiffres de l'INSEE de produits en 2016 mais sur 2013, expliquaient qu'il y avait quasiment plus de 30 000 logements vides à Lyon. Enfin, et je parle de Lyon intramuros, hein, je parle même pas de l'agglomération. Il y a des chiffres qui parlent au niveau national de 2,6 millions de logements vides. Et donc, en fait, bah, tout simplement pour conclure, il y a de la place pour SDF, immigrants, il y a de la place pour tout le monde. Donc, arrêtez de dire vos conneries et puis bah, héberger les gens qu'on doit.
Donc, Gérard Collomb est révolté. Pas à cause des SDF, hein, mais il affirme clairement, il est révolté, c'est un cauchemar qu'il nous dit. Il a été sanctionné par le Sénat pour absentéisme et ses revenus ont baissé drastiquement. Il ne gagne plus que 4 000 euros par mois. Effectivement, comme le prévoit le nouveau règlement du Sénat, les sénateurs qui ne sont pas présents alors qu'ils devraient l'être sont désormais sanctionnés depuis 2016.
Scandale.
Mais Gérard Collomb a un peu du mal à se rendre aux séances, puisqu'il cumule les postes de sénateur depuis 1999, de maire de Lyon depuis 2001, et de président de la métropole depuis 2015.
Et plein d'autres.
Oui, voilà, bon, ouais. Ça c'est des postes d'élus.
Mais le Sénat, c'est en train de devenir pire.
Il est dans plein de conseils d'administration, il a entre 15 et 20 postes différents, ce mec.
Il a un appart de 270 mètres carrés payé par la métro à Paris, plus un chauffeur qui l'attend dès qu'il se ramène, et le train gratuit.
C'est trop chaud,
en limousine.
En limousine, une petite limousine, on sait jamais, quoi, il a peur de se perdre dans le taxi.
Enfin bon, malgré tout cela, il se plaint de son emploi du temps trop chargé. Et il se plaint aussi de l'emploi du temps du Sénat, où on ne lui annonce pas les séances à temps, et donc il n'arrive pas à se rendre à Paris. Et voilà, c'est terrible.
Mais c'est en train de devenir pire que Pôle emploi, le Sénat. Tu rates un rendez-vous, tu te fais radier direct.
Ouais, puis avec la suppression de l'Éco Solidaire, c'est beaucoup plus dur de se rendre à Paris hein, maintenant.
C'est clair.
Et t'as le droit encore de louper des rendez-vous, putain.
Ouais, donc pauvre Collomb. Bah, après, il n'est pas tout seul. Hein. Il y a 13 autres sénateurs qui ont aussi été épinglés pour les mêmes raisons. Mais révolté contre le règlement, Collomb a affirmé que dans ces conditions, on n'aura bientôt plus comme sénateur que des mauvais, des apparatchiks de parti et des retraités. Alors c'est marrant parce que moi je vois pas ce que ça changerait en fait.
Bah, il y aura peut-être plus de pourris comme lui.
Mais c'est marrant parce que maintenant je rajouterais aussi cumulard. Parce que 76% des sénateurs cumulent avec d'autres mandats. Donc la plupart, deux autres mandats.
Ils cumulent le fait d'être pourris et...
et riches, ouais. Ce qui est génial, ouais, c'est qu'il se plaignait de pas être aux séances, alors que simplement, et en fait, il est jamais là, quoi. Donc, il sert à rien, en fait. Bon, écoutez, ouais.
Bon, bref, on l'aime pas, on l'aime bien.
Il
bon,
est
voilà,
cher.
C'est comme ça, chacun son avis. Hein, bon. Voilà.
Il nous coûte cher, ça, c'est au moins une certitude. On est tous d'accord là-dessus.
Et donc, on continue avec l'agenda. L'agenda, donc, mardi. Tu avais fini, non? Tu n'avais non. pas fini? C'était pas fini? Continue avec Gérard Collomb, hein, on peut continuer.
Oh, j'aurais taillé Henri Guénaud au passage, mais parce qu'il a affirmé la semaine dernière qu'il gagnait que 5 100 € et qu'il pouvait rien mettre de côté, le pauvre. Bah oui. Voilà.
Bon, encore un copain. Donc on continue avec l'agenda de la semaine. Donc mardi, c'est-à-dire demain, mardi 10 à 19h à la Griffe, il y a une réunion publique pour s'organiser contre le meeting du FN le 4 février. Alors c'est une bien grande phrase. L'idée c'est pas de s'organiser que contre le FN, c'est aussi et surtout de s'organiser contre ses idées.
Et son monde.
Et son monde, non? Ah non? Son monde, ça, peut-être pas, non. En tout cas, ses idées qui sont finalement déjà au pouvoir. Et l'idée, donc, est d'utiliser ce meeting du Front National comme le début d'une contestation de toutes ses idées, dans l'intégralité de ses idées. Voilà, donc ça, c'est mardi 10 à 19h à la Griffe.
Qui risque de s'immiscer pas mal dans la campagne électorale.
S'immisce déjà.
Oui, voilà.
Mardi 10, c'est demain.
Exactement. À 19h, donc.
À 18h. 18h.
Non, c'est à 19h.
Sur Rébellion, le site d'info lyonnais que vous allez voir tous les jours, et ben c'est marqué 19h.
Oui, c'est 19h d'ailleurs. Et samedi 14, il y a une projection à l'atelier des canulars, donc d'un documentaire qui s'appelle Poison contre poison. C'est un docu sur l'épandage en Colombie par l'État de pesticides contre les champs de coca au nom de la lutte contre la drogue. Donc voilà, qui une fois de plus met dans accule à la misère tout un tas de paysans qui cultivent la coca au nom de la lutte contre la drogue. Donc c'est à 19h à l'atelier des canulars, 91 rue Montesquieu, dans le 7e arrondissement de Lyon.
Le 14 janvier.
Le même jour donc.
Le même jour.
Un peu avant.
Il y a la rencontre avec un super auteur, un certain Samir Boumediene, autour de son super livre.
Super livre.
La colonisation du savoir, une histoire des plantes médicinales du Nouveau Monde, 1492-1750, à la librairie Terre des Livres, rue de Marseille.
Et dans ça la sera magnifique rue de Marseille, dirais-je.
Dans la magnifique rue de Marseille, à 15h.
Donc, et son monde.
Voilà.
Mais à 15h, dans un autre endroit qui n'est pas forcément concurrent, mais enfin,
pas très loin non plus.
Mais pas très loin non plus. Et rappel... la librairie La Griffe, comme tous les samedis, il y a un autre débat où vous pourrez acheter le bouquin précédemment nommé aussi, si vous voulez. Et il y a sur, je ne sais plus trop quoi, mais vous regardez
sur les ovalistes.
Sur les ovalistes, la grève des ovalistes, un très bon bouquin sorti des ACL. Très très bon. Ouais, sur les
et on rappelle que le 23, c'est tous dans la rue, il y a manif le 23.
Le 23. Écoutez,
on, le 22. On va finir tranquillement.
Le 22 pour Adama.
Le 22 Adama Traoré, ouais. Ouais.
Et merci beaucoup. On laisse l'antenne immédiatement. C'était le Canu Info du lundi.
Lundi soir.
Vous êtes toujours au 102.2 sur la plus rebelle des radios.